troisième temps, en effet, c'est un chantier qu'on a appelé la France vue de l'étranger. On va parler journalisme et médias. L'émission, comme chaque jour, est préparée avec Alice Ramon, Inès Duperron et Romain Debec de Lièvre. Elle est réalisée, comme chaque jour, par Véronique Villa, avec comme manette aujourd'hui Yanis Tioudad. Palerme 1201. Imagine-t-on ce qu'était Palerme, une ville arabo-normande, la cour la plus raffinée d'Occident. Elle fourmillait de marins de tous les horizons, de filles de toutes les vertus, de traducteurs, de poètes. On y trouvait aussi des Siciliens, c'est-à-dire le produit des vagues successives des Carthaginois, de Romains, de Vandales, de Byzantins, d'Arabes, de Normands, de Souabes et de Juifs. Et la splendeur s'ajoutait à la splendeur. Chacun louait les qualités des Grecs pour l'administration. Si c'était un chaudron, il était à feu doux. On y aimait tant les différences qu'on en inventait quand, faute de vent, il en venait moins. Personne ici n'avait l'aplomb de désigner l'autre comme l'étranger. On préférait rivaliser de talent. Dans l'Europe d'alors, les hordes de la veille faisaient les bourgeois du lendemain. Il suffisait d'un mariage, d'une mauvaise chute de cheval ou d'un vœu d'allégeance pour que toute une région, avec ses hommes et ses villages, devienne anglaise, souabe ou normande et que rien ou presque ne change. Un extrait du texte Farid Imperator, lui-même extrait du livre Relever les déluges de David Bosque, paru ces jours-ci chez Verdi. Il est 14h passé de 2 minutes. Quelle beauté! Bienvenue dans les Nouvelles Vagues. La France et certaines questions qui nous agitent, vues avec un peu de chant. Voici le principe du chantier radio que nous avons débuté lundi. En fin d'émission, nous ajoutons à cela un peu de la distance qu'offre l'archive radiophonique, avec 5 fois d'artistes, d'intellectuels, de chercheurs étrangers qui se souviennent de leur arrivée en France ou de leur passage en France. Aujourd'hui, Luba Jorgensen évoque, en 1996, au micro de France Culture, son désir d'écrire en français, la langue qu'elle entend désormais partout, dès son arrivée à Paris, à l'âge de 17 ans.
En français, je pouvais lire et écrire des choses que ma famille ne comprenait pas. Donc c'est une donnée qui compte beaucoup pour moi dans l'écriture, le fait que peut-être encore maintenant, je sais que ma famille ne lira pas ce que j'écris.
Le français comme possibilité d'échappement, c'est à écouter vers 14h50. C'est donc le troisième temps d'un chantier que nous avons appelé « La France vue de l'étranger ». À pile 2 mois du second tour de la présidentielle, nous profitons de l'espace, du recul, de la liberté qu'offre parfois d'être ou d'avoir été étranger dans un pays pour le penser et avec lui certaines questions qui l'agitent. Alors en termes de questions agitées, la place des médias dans la campagne présidentielle et plus généralement dans la société contemporaine française se pose là. Défiance, omniprésence, question d'indépendance financière et éditoriale, vérification des faits d'un côté, fausses nouvelles de l'autre, éloignement de la population, discours unique quand il n'est pas clairement question d'assassinat. Sur tout cela et plus encore sur leur propre parcours de jeunes journalistes venus de Syrie, nous vous écouterons, et sans doute peut-être avec plus de calme que ce que je viens d'énoncer. Amar Al-Mamoun, bonjour.
Bonjour.
Et Anne-Marie Jazzy, bonjour. Vous vous installez tout juste, bienvenue à vous. Voilà le micro en face, un peu d'eau, le téléphone est éteint. Tout va bien. Vous travaillez pour différents organes de presse, on va y revenir, mais en tout cas vous avez participé tous les deux au numéro du Libération des réfugiés. Vous avez respectivement signé les articles sur l'expo Taro Izumi, mais aussi des textes sacrés soumis à des likes, on y reviendra. Et rien de moins que le portrait du président François Hollande.
Aujourd'hui, nous vous présentons Madame Juliette Flaner, qui est correspondante à Paris du magazine New Yorker. Chaque semaine, elle envoie outre-Atlantique son avis, son opinion sur un sujet de chez nous vu par des yeux américains. Quelquefois un peu trop sympathisant, mais enfin, madame, depuis le temps que vous êtes à Paris, vous êtes devenue tout à fait parisienne.
Depuis que vous êtes à Paris, vous êtes devenue tout à fait parisienne. On est en 1949, c'est une archive de la RTF, et c'est Juliette Flaner qui est à l'époque reporter pour le New Yorker, donc on n'a même pas passé le cap des années 50, et qui est interrogée sur est-ce que son regard est encore un regard d'étranger maintenant qu'elle est à Paris, est-ce que finalement son regard n'est pas devenu complètement parisien. Alors peut-être nous raconter l'un et l'autre, à quel moment vous arrivez à Paris et qu'est-ce qui bouge un peu dans votre regard, Amar Al-Mamoun?
En fait, Alors pour moi, c'était comme un rêve parce que j'ai quitté la Syrie et pour l'étranger, il y a toujours cette fiction de Paris, cette image de Paris, les villes de lumière et tout ça. Et quand je suis arrivé ici, ce qui m'étonne, que c'est la même que les fantasmes, c'est la même que l'image, c'est ça. C'est comme tous les paysages, tous les bâtiments, les gens et c'est... Et c'est pour moi, jusqu'à ce moment, c'est bizarre. Pour moi, je ne crois pas que je suis ici parce qu'il y a toujours cette image fantastique dans ma tête et je la trouve quotidiennement dans ma vie quotidienne. Et c'est très intéressant pour moi parce que chaque moment, c'est une expérience nouvelle. J'ai découvert quelque chose parce que c'est une vie très riche. Et il y a toujours il y a quelque chose qui manque, toujours. Il faut toujours découvrir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est le fantasme que j'ai déjà eu et la réalité sont la même? Et jusqu'à ce moment, oui.
Pour l'instant, ça correspond.
Exactement.
Cette image fantasmagorique de Paris, vous la construisez en Syrie à partir de quoi? En traînant sur Internet avec des vieilles cartes postales, à partir des récits d'autres personnes?
À partir de tout, les médias, les films, et les romans, et les journalismes, et tout ça. Là, il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées. En fait, il y a cette image qui était construite, c'est par les Français, par les médias français, pas pour nous, les médias arabes, et qui construit cette image fantastique de Paris. Et c'est étonnant comment elle est fabriquée professionnellement pour séduire les gens de venir ici.
Manifestement, ça a marché puisque vous décidez de venir non seulement en France et qui
plus Paris.
Est à Paris. Oui. Vous dites plus venir à Paris que venir en France.
Oui, parce que j'ai déjà les familles ici qui m'a aidé pour être là. Et en fait, c'était mon choix. Je quitte la Syrie pas pour aller en France, pour aller à Paris, pour être là.
À quel moment vous quittez la Syrie? Vous quittez quelle ville exactement?
Je viens de Damas, la capitale en fait. Et le moment, c'était un peu, comment on dit ça, j'ai reçu beaucoup de menaces de mort en fait par tous les partis en conflit en Syrie, l'État islamique, le régime syrien et tout. Et il y a toujours un motif spécial crié pour moi. Et en fait, j'ai passé 5 ans pendant la révolution. Et en fait, il y a un moment quand c'est impossible de rester. De tout ou être tué. C'était ça la question. En fait, j'ai décidé non, je ne peux pas. Et j'ai quitté à Beyrouth. Après, là-bas, j'ai demandé la visa et je suis là.
Et vous aviez quel âge au moment de quitter la Syrie?
J'ai 27 ans. Quand j'ai quitté, j'étais 25. J'avais 25.
Donc ça fait à peu près 2 ans.
2 ans, oui.
Hein, que vous êtes à Paris et en France. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous, Anne-Marie Jazzy? Vous construisez, vous aussi, une image française ou parisienne depuis la Syrie et vous essayez de voir qu'est-ce qui résiste une fois que vous arrivez sur le sol français?
Oui, en fait, quand j'étais en Syrie, j'ai fait des études dans une école qui était française. Qui s'appelait École Laïque, c'était une école française, un lycée en fait, le lycée français. Après, c'était prise par l'État et c'est devenu une école syrienne, mais qui a des privilèges d'apprendre le français mieux que d'autres écoles en Syrie. Et à partir de cela, enfin, parce que c'est moi qui a choisi, ma mère, elle m'a fait un tour d'école, elle m'a dit quelle école tu préfères, enfin, parce que quand j'étais petite, elle voulait pas que je sois dans un état où j'aime pas aller à l'école. Alors j'ai choisi cette école et depuis, j'ai commencé à apprendre le français et à comprendre la culture française. Et après, en fait, pendant ma vie en Syrie, j'ai vu les films français. J'étais toujours j'ai visité tout le temps, en fait, chaque jour, le centre culturel français. Et mon père, il voyageait toujours en France. Alors, j'avais toujours cette image de la France. Enfin, j'avais un rapport avec la France. Je sais pas c'était quoi, mais j'avais toujours ce rapport de la culture française, de la langue française. Il y a toujours. Quand j'étais en Syrie, j'avais cette image carte postale aussi de la France. Et quand je suis arrivée. Bien sûr, il y a la carte postale qu'on voit, mais c'est beaucoup plus riche que ça en fait. À Paris, il n'y a pas une seule vie, c'est plusieurs vies en fait, plusieurs villes aussi, plusieurs cultures, tout ce qu'on. C'est une ville qui a beaucoup de diversité. C'est une grande ville dans le sens de grande ville comme New York, Paris. Enfin,
avec plusieurs couches. Presque.
Voilà, plusieurs
à la fois
couches
grandes et profondes.
Voilà, c'est ça qui me fascine de Paris et que je l'ai trouvé Enfin, je savais pas avant de venir en France.
Justement, lorsque vous dites étudier dans ce lycée où vous apprenez le français de manière plus privilégiée qu'on imagine que d'autres jeunes gens de cette ville, c'était dans quelle ville ? C'était à Damas aussi ?
À Damas, oui.
À Damas pardon, aussi. Ouais. Vous dites, j'apprends petit à petit à comprendre ce qu'est la culture française. Ça veut dire quoi pour vous ? Je ne sais même pas si on faisait un tour, par exemple, du studio ou en régie, si nous serions capables les uns les autres de dire si nous avons compris la culture française. Vous, ça voulait dire quoi ?
En fait, il y a toujours, il y a la France qui a signé la charte de droits des droits des hommes, enfin de l'homme. Il y a la France qui accepte tout le monde. Il y a la France qui a beaucoup, enfin. Qui était partout dans le monde, alors qu'il connaissait beaucoup de, enfin, qui connaissait beaucoup de gens, qui connaissait beaucoup de cultures, et qui a rassemblé ces cultures, enfin, par les gens qui vivent ici. Et il y a aussi l'art, enfin, c'est une image qui est vaste, en fait. C'est pas juste, enfin, il y a les dessins animés qu'on voit, en fait, c'est ça déjà, c'est très intéressant. Enfin, j'ai parlé de ça dans le portrait, quand on a vu le gendarme devant l'Élysée. Et il y a aussi, en fait, ce rapport humain, en fait. Par exemple, j'ai regardé aussi TV5, j'ai écouté un peu la radio française. Et j'étais toujours fascinée par cette vision humaine, en fait, et que le monde et l'être humain est quelque chose de sacré. Et en fait, j'ai compris, en fait, j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire l'État qui est fait par l'homme pour l'homme. Enfin, quand je suis arrivée en France, j'ai découvert que la France est... Parce qu'en Syrie, en fait, dans le monde arabe, on parle beaucoup de religion, de quelque chose qui est au-delà, qui décide pour nous. Mais en France, c'est l'homme qui a fait cette civilisation pour l'homme. Les droits sont pour l'homme, enfin pour l'être humain. Et c'est ça qui me fascine tout le temps. Et
c'est quelque chose que vous pouvez sentir au quotidien, le fait que, pour utiliser justement cette expression rousseauiste, que le contrat social, il soit inventé par des êtres humains pour des êtres humains. Vous le sentez comment, vous? Je sais pas, par exemple, dans le chemin que vous faites aujourd'hui pour venir à la Maison de la Radio, dans votre vie quotidienne désormais à Paris, ça passe par quoi?
Il y a le respect entre les gens et il y a le rapport respect. Il y a... on peut parler avec tout le monde et on peut discuter sur plusieurs. Enfin, je parle toujours. Enfin, moi, j'aime beaucoup parler avec les gens. J'essaie toujours de parler avec n'importe qui est devant moi ou à côté de moi. Alors, j'essaie toujours de comprendre comment ça marche, comment ils voient la vie et c'est toujours intéressant parce que les gens, ils sont toujours à l'écoute ou. Il y a ça, en fait, je sais pas, c'est peut-être c'est l'état de droit. En fait, maintenant, je fais beaucoup de comparaisons immédiatement et c'est trop difficile de tout dire, mais le fait que tout le monde respecte la loi, presque, enfin...
Presque. On a vu quand même. En tout cas, ce soit la règle, que ce soit voilà. Respecter la loi.
Parce que, en fait, en Syrie, on a souffert de ne pas respecter la loi, spécialement par les politiciens et les gens qui sont dans les hauts niveaux, en fait. Et ça, c'est ça, en fait, qui me fascine.
Anne-Marie Jazzy, vous parlez donc de votre formation dans ce lycée français à Damas. C'est aussi une formation que vous commencez finalement à Damas, à Mar al-Mamoun, mais plutôt du côté du journalisme et peut-être plus précisément du journalisme culturel. Vous êtes enseignée où ? Qu'apprenez-vous ? Et par quoi passe votre pratique journalistique à ce moment-là ?
En fait, à Damas, j'ai fait un master de journalisme et en même temps, j'ai fait un deuxième cursus d'études de théâtre et critique. En fait, pour développer mes outils d'écriture et tout ça. Et quand je suis à Damas, j'ai travaillé comme une critique culturelle. En fait, j'écris sur les romans, l'exposition, les théâtres. c'était pas facile parce que toutes les journaux nationaux en Syrie sont contrôlés par l'État. Et quand je dis contrôlés, c'est-à-dire c'est dangereux d'écrire quelque chose. Pour ça, j'ai
alors
jamais...
Alors quand vous dites contrôlés, justement, puisque je racontais combien la question de la dépendance et de l'indépendance éditoriale et financière est une question qui agite beaucoup le débat français sur les médias français. Vous, quand vous parlez de contrôle, bien sûr, évidemment, rien n'est comparable, mais ça passe par quoi ? Tout jeune journaliste, vous aviez 22, 23, 24 ans, ça se passe comment ?
Je vais vous donner un petit exemple, pas dans le journalisme. Par exemple, dans la rue, tu ne peux pas dire le nom de la présidente en haut. Il faut toujours faire un Bachar al-Assad. Vous pouvez faire ça, en fait, mais dans les journaux nationaux, c'est toujours contrôlé. Il y a toujours les liens rouges. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça. Si c'était clair, si tous les médias internationaux parlaient de ça, on ne peut pas. En fait, pour ça, je n'ai jamais travaillé dans un journal, un média local ou national en Syrie. J'ai toujours travaillé avec les journaux internationaux qui sont en Londres, en Amérique, au Liban, parce qu'il y a beaucoup de liberté. Et il y a toujours la menace d'être emprisonné, mais en fait, il y a la capacité de critiquer, de dire quelque chose. Et ce n'est pas impossible en Syrie, c'est ça.
Est-ce que vous avez eu la sensation, en dehors de ce rapport à la liberté d'écrire, à la liberté de penser et de s'exprimer, et de publication, est-ce que vous avez eu l'impression que le métier de journaliste était abordé différemment ici en France ?
En fait, oui. Parce que, par exemple, en Syrie, il y a une seule institution qui contrôle tout, c'est l'État. En fait, ce n'est pas l'État, c'est le mafia de l'État. Ici, en France, oui, il y a toujours les politiques et l'économie qui contrôlent tout. Mais il y a un peu de liberté qui donne l'opportunité de critiquer. Même si on critiquait le même journal, dans le même journal, mais il y a toujours la chance de, oui, je peux dire ça sans être emprisonné, sans rien. Je peux compléter ma vie normalement. Et ça change notre perspective de la matière. Parce que normalement, on crée des produits journalistiques. On ne crée pas les récits ou les reports. Non, c'est un produit. Elle doit être circulée. Il faut servir les politiques et les gens qui payent l'argent. Et en fait, en France, oui, ça existe toujours. Il y a toujours les politiques. Mais c'est plus libre. Dans un moment, oui, on peut protester quelque chose. Je dis non, je ne peux pas faire ça, je ne veux pas. Je peux écrire dans un autre journal, par exemple, pour le critiquer. Et sans la menace, parce que le concept de menace, c'est difficile d'expliquer ça maintenant, parce que c'est difficile de comparer ou de faire comprendre quelqu'un, c'est-à-dire quoi, d'être menacé à chaque moment, d'être d'emprisonnement, d'être tué ou kidnappé. Et pour ça, c'est la raison, on dit la Syrie, c'est la citadelle de silence. On peut dire rien, mais ici, on peut dire n'importe quoi sans être touché, sans quelqu'un dire où est ton identité, ou un truc comme ça.
Est-ce que vous avez mis du temps à vous défaire justement de ce que vous appelez la citadelle de silence qui vous entourait et vous faisait prendre conscience, tout le temps que tout n'était pas dissible. Lorsque vous êtes arrivé à Paris, est-ce qu'il s'est passé du temps avant que vous preniez conscience que c'était possible de dire les choses et d'écrire les choses ?
La première des jours, quand je suis arrivé ici, j'ai écrit 15 articles. J'ai travaillé comme un fou tout le temps. Je peux dire tout, et j'ai parlé avec tous les journaux, j'ai travaillé avec eux, j'ai dit alors maintenant je vais augmenter mon production journalistique. J'ai commencé à écrire parce que c'est le moment quand je suis sûr que personne va m'envoyer un email ou un texto, m'appeler, dire oh non, il ne faut pas faire ça. Et c'est pas fascination, cette sensation de liberté, c'est un peu romantique, je sais, mais c'est vrai, c'est ça, de quitter un pays de dictature pour arriver ici dans le pays où, comme Anne Mara dit, qui respecte le droit. Le droit est ici pour m'en servir. L'État, ce n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas mon ami aussi. C'est une institution qui m'assert dans une manière ou une autre.
Est-ce que vous aviez une hâte à écrire sur certaines choses en particulier ? Vous dites, je passe des coups de fil à peu près avec tous les journaux avec qui je travaillais à ce moment-là pour dire, bon les gars, j'ai envie d'écrire. Vous aviez envie d'écrire sur quoi ?
Tous les petits articles, les petites idées, les trucs que j'ai déjà vécu et je n'étais pas capable de le dire. Parce que quand j'étais en Syrie, il y avait mon nom, Amar Al-Mamoun, j'ai écrit avec mon nom. En fait, j'ai deux ou trois Elias au plus de nom. Et quand je suis arrivé ici, je dis non, il faut créer mon image publique. Il faut dire tout avec mon vrai nom. Ça, ce que j'ai vécu, ça, je fais. Il y a les choses que je n'étais pas capable de dire en Syrie, même si avec un plus de nom, parce que tout était surveillé par les technologies de l'État. En fait, ça, par exemple, les petits accidents que j'ai vécu en Syrie, les petits trucs, les gens qui sont disparus, on ne sait pas où, j'aimerais bien dire, ouais, ils sont disparus parce qu'ils sont faits tac, 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 de laisser tout en or. C'était ça mon but.
Est-ce que vous passez un peu de temps, Admar Hijazi, avant de comprendre justement qu'ici en France, vous allez pouvoir écrire ce qui vous tient à cœur?
Oui. Ça a pris du temps en fait pour arrêter l'autocensure, parce qu'en fait en Syrie on apprend dès l'enfance à avoir une autocensure, envers l'État, envers quelquefois envers la religion, parce qu'on pouvait critiquer la religion plus que l'État. Et quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à, est-ce que je peux dire ça ou pas? Et je demandais tout le temps, en fait, est-ce que c'est acceptable de dire ça ou pas? Et
alors, à propos de quoi? L'État français, la religion en France, ou alors c'était lorsque vous écriviez sur la Syrie? Ou les deux, peut-être?
Les deux, en fait, les deux. N'importe quel sujet, en fait, même si c'était un sujet qui avait pas beaucoup de...
Inoffensif.
Voilà, je me demandais, est-ce que c'est possible ou pas? Et en fait, je me suis dit, il faut apprendre d'enlever cette autocensure pour pouvoir dire les choses et pouvoir les analyser, en fait, parce que quand c'est libre, enfin, quand on a la liberté, on pouvait plus analyser, en fait, et avoir plus une vision beaucoup plus globale, en fait. Et c'est ça qui...
Et alors, qu'est-ce qu'on vous répondait lorsque vous alliez toquer à la porte en disant « Là, j'écris un papier » ou alors « Je vais faire un sujet pour telle chaîne, France 24 ou autre. Est-ce que j'ai le droit ?» On vous disait quoi ?
En fait, à chaque fois, les discussions, ils étaient sur le côté, en fait, la fabrication du sujet ou de l'article et n'est pas sur les mots ou les idées que j'ai proposées. Et c'est ça qui m'a vraiment fascinée.
Oh, c'est-à-dire, on va pas te donner trop d'argent, tu vas pas avoir beaucoup de temps. C'était ça, en fait.
C'est ça.
C'était ça, les discussions.
C'est ça, ouais.
Et, mais c'était pas le contenu.
Ouais, c'était pas sur le contenu. S'il y a, enfin, par exemple, il faut faire ça mieux, il faut parler de ça plus que ça. C'est quelque chose, enfin, éditorialement, juste pour qu'il soit bien écrit ou bien fait, mais n'est pas sur les idées ou les sujets normalement.
Conditions de production et puis en effet travail bien fini, c'est aussi j'imagine l'attention qu'on a portée à votre travail, Amar El-Mamoun. Et justement, vous disiez tout à l'heure, finalement c'est un peu romantique, j'arrive, j'ai à peine 25 ans, je suis en France, j'ai l'impression et j'ai envie de tout écrire et de tout écrire très vite. Est-ce que par exemple l'une des déconvenues c'est de vous rendre compte que ben, par exemple la situation des jeunes journalistes en France qui ont 24-25 ans, c'est de faire des piges, d'être rémunéré pas grand chose, d'avoir des contrats extraordinairement précaire dans la totalité des médias français, absolument sans aucune exception. Est-ce que vous découvrez cela aussi en arrivant?
Oui, je peux dire ça un peu. Parce qu'en fait, journaliste en Syrie, par exemple, c'est quelqu'un qui a vraiment...
Arrogant,
qui... Enfin,
mais aussi qui a une classe sociale, par exemple.
Oui, il y a une classe sociale, parce qu'en fait, c'est difficile de faire ça et... il faut avoir un poids pour travailler et tu travailles pas dans la politique, c'est la culture normalement. Ici, en fait.
Explique ça.
Ouais, en fait, en Syrie, la plupart des journalistes, ils travaillent dans la culture, pas dans la politique, non?
Ouais.
Ça, c'est vrai.
Ok.
Mais il y a quand même bien des journalistes qui travaillent, qui commentent la politique, non?
Oui, ils sont.
Ils ne sont pas des vrais journalistes. C'est-à-dire.
Partie de l'État.
Presque. Exactement, ils font partie de l'État. Ils ne comprennent pas le métier d'être journaliste, la profession, c'est
critiquer,
quoi.
Enfin, en fait, on critique ici, on critique l'État pour avoir un résultat mieux de l'État et pour faire mieux de la France. Mais là-bas, c'est vraiment propagande tout le temps.
Oui, exactement.
Mais on... Alors, par exemple, justement, sur ces statuts sociaux qui pourraient différer de ce que vous avez pu connaître à Damas, c'est-à-dire qui dit journaliste, et donc bon, peut-être journaliste culturel, dit une certaine classe sociale, une certaine évolution dans un milieu social qui ne vaut peut-être pas forcément pour les jeunes gens que vous pouvez aujourd'hui fréquenter à Paris. Est-ce que ça a été la même surprise pour vous, Amar El-Mamoun ?
C'est-à-dire que ce n'est pas la même classe sociale ?
Je ne sais pas, je pose la question.
Je peux dire un mot ? C'est beaucoup plus démocratisé ici. Oui. C'est démocratique en fait. Tous les gens peuvent être journalistes, tous les journalistes peuvent travailler, s'ils courent, hein, c'est ça.
S'ils courent.
Ah ouais, il faut qu'ils courent tout le temps pour qu'ils puissent faire quelque chose. C'est juste que c'est beaucoup plus, c'est démocratisé. Pour moi, en fait, quand je suis arrivée, oh là là, tout le monde peut travailler.
C'est pas spécial.
C'est pas spécial, c'est un métier comme les autres. Et
exactement.
Ça, c'est...
Même impression de votre côté, un métier comme les autres, le journalisme
oui.
en France ?
Oui. Et si tu as fait la formation, tu peux commencer avec un stage, deux, trois, après tu es dans une organisation, tu commences à écrire. Il y a un développement logique, institutionnel. En fait, dans le monde arabe, pas seulement en Syrie, il y a le statut politique, qui aide les statuts économiques.
Quand vous dites statut politique, ça veut dire par exemple les accointances avec certains partis,
exactement,
avec certaines
quelqu'un
idées.
Qui travaille avec le gouvernement ou les réseaux personnels, c'est ça. On connaît quelqu'un qui écrit bien, en fait, il faut écrire quelque chose. Après, il y a un éditeur qui corrige tout. Et ça, c'est aussi un problème parce qu'il y a les gens qui ont dit, ils sont les intruders, les gens qui entrent dans la profession sans la formation. Il y a des fois qui sont bien, mais il y a des fois où il y a des fois qui c'était pas bien. Elle écrit les choses, elle monte. Il y a des gens qui montent vraiment. Il y a des gens qui criaient seulement les articles pour circuler, pour, comment on dit ça, fill the page. Et ça, en Syrie, ça existe beaucoup. Ici, ça dépend. Il y a le respect professionnel de chaque organisation journalistique ou médiatique qui pose en ligne éditoriale, c'est-à-dire par rapport au professionnalisme, par rapport à la continue de l'article, un truc comme ça. I used to think that I should watch TV. I used to think that it was good for me.
Par Marie Richeux.
L'opinion des Français aujourd'hui, elle est liée à quoi ? Elle est liée à des centaines d'heures ou de dizaines d'heures de plateaux de télévision où on voit des soi-disant experts qui parlent du rôle des assistants parlementaires et qui naturellement me condamnent les uns après les autres. J'ai entendu peu de voix prenant ma défense. Aucun d'entre vous n'a une interrogation sur la violence de la semaine qui vient de se produire. La presse, naturellement, doit relater les événements. La justice doit faire une enquête quand il est nécessaire qu'elle la fasse. Encore faut-il que ce soit les bonnes instances judiciaires qui soient saisies, ce qui ne semble pas être le cas. Mais lyncher, assassiner politiquement, comme finalement vous l'avez fait, pendant 10 jours, un candidat à l'élection présidentielle, je pense que ça pose un problème. Que ça pose même un problème démocratique.
Tout simplement, je vous dis que vous avez des fiches, c'est tout. J'ai le droit de dire que vous avez des fiches. J'ai le droit de dire qu'il y a des gens qui
non,
vous aident.
Vous avez dit quelqu'un, vous êtes, on vous a mal fait
gens,
vos fiches.
Il y a bien des gens qui vous aident pour préparer
vous avez dit
une émission.
On vous a mal fait vos fiches, c'est pas très élégant.
Personne ne vous aide.
C'est un peu
vous
dénigrant.
Trouvez que vous êtes élégante, madame.
Oui, je suis élégante.
Mais vous êtes d'une arrogance permanente.
Pourquoi
vous me regardez avec un mépris terrible.
Mais où voyez-vous
pas que vous êtes élégante et tout le monde le voit. Enfin, je veux dire, c'est évident.
Tout le monde.
Vous êtes agressive. Vous me regardez avec un mépris dans les yeux terrible. Je vous le dis jamais parce que je suis quelqu'un de poli.
Mais
je vous répondrai sur le fond.
Je vous pose des questions concrètes sur
donc,
le fond et vous
ne faites
pas de
leçon d'élégance parce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas élégant.
Mais si, je suis quelqu'un d'élégant. Je vois pas pourquoi vous dites ça.
Vous n'êtes pas.
Qu'est-ce que je vous ai dit de pas élégant?
Non, c'est votre.
Est-ce que je vous ai mise en cause personnellement?
Vous êtes dans la en permanence, vous êtes une espèce de moquerie, enfin bon, bref, peu importe.
Avant de venir sur l'actualité que vous avez l'air de aussi mal connaître que le reste, mais je vais vous dire une chose.
Ça, il y a des... Vous voyez, ça, Jean-Luc
Madame,
Mélenchon, je vous comprends tout de suite, vous avez ce côté avec les médias, je trouve ça assez terrible, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'agressivité vis-à-vis des médias, les médias, ça reste quand même un contre-pouvoir aujourd'hui.
Ah oui,
et vous
ça
avez
se voit, hein.
Bah oui.
Ah oui, tous les jours, on voit que les médias sont un contre-pouvoir, qui n'abusent pas de la situation, qui...
En dehors de Galard.
Vous venez de prendre un exemple sur le Venezuela. Là, madame. Le Venezuela ne prouve rien, madame. Le référendum révocatoire a fonctionné une fois au Venezuela. S'il ne fonctionne pas une autre fois, nous aurons à en connaître. Mais pour l'instant, la procédure est en cours. D'autres pays l'ont pratiqué. Et madame, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée? C'est ça qui est important. C'est pas de me dénigrer ou de me renvoyer à la figure le Venezuela. Est-ce que c'est pas une bonne idée?
Oui, il y a les belles idées.
C'est une bonne idée ou pas?
Oui, Jean-Luc Mélenchon, mais il y a les belles idées.
Oubliez-moi, ma personne ne compte pas.
Mais voyez, vous êtes
ma personne, mes maladresses, peut-être ce que vous
Jean-Luc
appelez de l'agressivité, parce que
agressive.
Je combats un système.
6 Français sur 10, d'ailleurs, regrettent, vous avez une image très agressive. 6 Français sur 10, c'est un sondage Odoxa du fin du mois d'août. Et vous montrez, mais non. Ben non.
Ah, il y a des mélenchonistes.
Ici, il n'y a que des mélenchonistes. Non, mais il faut le dire, il n'y a que des mélenchonistes.
Un petit montage, mais il y aurait pu avoir d'autres voix. Ici, on a entendu d'abord François Fillon, dans une conférence, parler de violence, de défiance, d'assassinat médiatique. Puis Florian Philippot, tout récemment sur France 5, dans cet aveu, parler de mépris, d'arrogance, d'agression, de manque d'élégance, de moquerie. Et puis derrière, Jean-Luc Mélenchon, dans l'émission On n'est pas couché sur France 2, agressivité, moquer contre-pouvoir ou pas, ma petite personne, m'agresser ou ne pas m'agresser. Bref, on sent que le climat, que la question de la tension entre une classe politique, il y aurait 3 polarités, classe politique, le peuple et une classe médiatique et qui serait comme chauffée au fer blanc et chauffée au feu blanc. Comment regardez-vous cela? Comment regardez-vous cela en tant que journaliste tout jeune exerçant en France et aussi en tant que journaliste syrien venu en France pour faire votre métier?
Pour un journaliste syrien, je peux dire que ça me fascine, bien sûr, parce que c'est très démocratique déjà, et les journalistes, ils ont un poids dans la société, ils peuvent, enfin, ça se voit que les politiciens sont, ils ont peur des journalistes, en fait, ça se voit. Deuxièmement, pour un journaliste qui travaille en France, j'espère qu'il n'y aura pas cette ambiance de stress entre... Enfin, je ne sais pas pourquoi ces politiciens, ils se défendent immédiatement avant. Ils sont à la défensive déjà avant de rien faire. Et,
Alors, d'aucuns me répondront que c'est parce que certains journalistes sont sur l'agressif avant que la discussion ait commencé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le regard qu'on porte sur ces discussions à la fois médiatiques et politiques, c'est le regard d'une tension qui est assez bien répartie de part et d'autre de la table. Vous voyez plutôt une sorte de crispation de la classe politique à l'égard des journalistes?
Voilà, et je crois, il y a... Je ne sais pas, mais Peut-être, en fait, c'est l'effet Trump aussi, parce qu'il a fait « Oh, je déteste les journalistes, ils sont mauvais, ils mettent des mots que j'ai pas dit ». Et je crois ça parce que aussi Marine Le Pen, elle a parlé de ça, elle a dit qu'elle a des problèmes avec les journalistes voilà, en fait, c'est une vague aussi. Maintenant, on critique les journalistes, ils sont les gens qu'on peut toujours c'est nous en fait qui courent dans la rue, c'est nous qui vont aller en cours de partout en fait pour avoir un papier pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour dire qu'est-ce qui se passe, et à la fin on est attaqué aussi parce que on essaye de comprendre pourquoi et on dit que c'est nous qui, enfin, on met les mots dans la bouche de quelqu'un ou quelque chose. Je crois que c'est la vague qui est créée par Trump. En fait, c'est l'effet Trump, je trouve, maintenant, parce que on le voit de plus en plus. En fait, il y a deux mois, je crois, c'est devenu vraiment.
Ça monte en pression, ouais. Selon vous.
Ouais, ouais.
Comment est-ce que vous regardez cette ambiance française à Mar al-Mamoun?
Cette relation entre les journalistes et les politiciens, je pense, c'est trop bien, c'est logique. Ça, c'est le boulot d'un journaliste, d'interroger quelqu'un, de critiquer, de pas perdre conscience, like lose the handling, parce que c'est le boulot d'un journaliste de reposer les questions et reposer, crier cette stress, parce que si quelqu'un, on dit pas monte, si elle essaye de cacher quelque chose, c'est ça. Et même elle m'a dit ça, c'est le truc de Trump aussi, parce que Trump, avant, il n'est pas un politicien, il est en fabrication, en produit de médias. Pendant toute sa vie, il a travaillé dans les médias, il était toujours dans les produits culturels, dans les plateformes qui ne sont pas politiques, dans le business, il a fait un TV show et tout ça. En fait, cette création de cette stress entre le politicien, l'opinion publique, et les journalistes, je trouve ça c'est trop bien et fascinant en même temps, parce que par rapport aux Syrie, ça n'existait pas.
Alors évidemment, bien sûr, il n'y a rien de comparable, mais alors lorsque François Fillon, dans sa conférence de presse, dit « ce lynchage médiatique, je cite, pose problème et notamment pose un problème sur le plan démocratique », vous vous dites « non, on se frotte les mains, au contraire, c'est le bon signe d'une bonne santé démocratique ».
Ça, c'est le résultat de la démocratie, oui, je peux critiquer, moquer. Fait tout. Si j'ai traversé le droit, oui, je peux être lié en puni, mais finalement, c'est ça le boulot, de interroger quelqu'un. Je sais pas c'est quoi le mot là, en français, mais c'est de pas faire le bêtise,
de piquer, si vous
voulez, de piquer quelqu'un pour dire quelque chose.
Pareil, vous dites, mais bien sûr, c'est le signe d'une bonne santé démocratique.
Bien sûr, je trouve. Ok, il y a quelquefois il y a une exagération. Je me permets de dire ça, mais en même temps, c'est nécessaire en fait de tout savoir, d'interroger tout le monde. Enfin, c'est quelqu'un qui sera un président de la République. Enfin, c'est pas un petit souci où on parle de n'importe quel sujet. C'est vraiment. Il faut interroger, il faut qu'on voit qu'est-ce qui se passe, il faut que tout le monde comprenne qu'est-ce qui se passe en France, ces candidats, comment ils sont, parce que c'est quelqu'un qui va conduire le pays pendant un certain temps et on a besoin de savoir, c'est logique, je trouve. Et c'est de bonne santé, je sais, j'ai oublié comment tu
une bonne santé.
Ouais.
On va passer un coup de fil et demander son avis à Philippe Ortona. Bonjour, vous êtes au téléphone avec nous depuis le Maroc. Est-ce que vous m'entendez convenablement?
Je vous entends parfaitement.
Bon, eh bien, c'est très bien. On vous entend très bien aussi. Vous êtes journaliste italien. Vous travaillez en France depuis à peu près 3 ans, hein, depuis 2014. Et vous avez profité d'une année Erasmus en France pour intégrer une école de journalisme à Sciences Po Paris. Vous êtes journaliste indépendant. Vous avez travaillé avec Mediapart, Capa, Libération. Vous travaillez aujourd'hui pour Ciné Mensuel. Comment est-ce que vous regardez aussi, à la fois en tant que jeune journaliste débutant sa carrière, mais aussi en tant que journaliste italien travaillant en France, ce que l'on appelle une forme de tension entre un pôle médiatique et un pôle politique à 2 mois du deuxième tour de la présidentielle.
Bah, je partage sûrement ce qu'on a dit avant. C'est à la fois un signe de bonne santé, c'est-à-dire que les médias jouent sûrement un rôle. Quand même, quand les Canards Enchaînés publient une enquête sur Fillon, il y a tout un processus politique qui se déclenche, et cela veut dire que les journaux ont quand même un poids à la fois dans les milieux politiques, à la fois dans la société. Puis c'est sûrement je pense que c'est aussi un peu la vague, la mode un peu du moment de s'en prendre aux médias. Sûrement c'est pas toujours justifié, je pense. Mais je pense que à la fois il y a aussi un besoin d'un peu de s'interroger au sein des médias aujourd'hui sur son propre rôle, sur le fait que les médias ont perdu le monopole de l'information et que j'ai l'impression en fait qu'on court toujours plus vite dans les médias, on court toujours plus vite dans cette espèce de fabrique de l'information qu'il faudrait peut-être commencer à prendre un peu plus son temps, un peu plus réfléchir, aller un peu plus en profondité.
D'ailleurs, c'est ce que disait Anne-Marie Jazzy, hein, quand elle commence à s'interroger, à défaire les propres murs d'une censure subie en Syrie et qu'elle vient demander pour tel ou tel sujet si c'est possible d'écrire telle ou telle chose, on lui répond davantage sur le temps au bout duquel il va falloir qu'elle rende son papier, j'imagine la pige ou le budget ou les moyens techniques attribués. Donc vous diriez que c'est davantage sur cette fabrique de l'information qu'il faudrait porter à notre critique et notre attention.
Je pense que oui. Lors de mon période passée à l'agence CAPA, je me suis aperçu d'une chose, c'est ce que les anciens de l'audiovisuel m'ont toujours dit, qu'une fois on partait sur un documentaire, sur un sujet, sur une investigation, sans forcément avoir écrit un séquencier, c'est-à-dire un document où l'on explique à la chaîne de télévision qu'est-ce qu'on allait faire précisément. Cela permettait effectivement d'aller sur le terrain, constater ce qui s'y passait et après écrire un séquencier, proposer un sujet. Alors d'aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on écrit avant un séquencier, avant de savoir ce qui se passe sur le terrain. Et c'est à la suite de cette proposition qu'on peut partir sur le terrain. Ça permet d'optimiser les moyens financiers qui vont être dédiés à un document, par exemple dans les secteurs audiovisuels. Et je pense qu'en général, si les journalistes avaient l'opportunité d'aller plus en profondeur, de prendre un peu plus de temps, je pense pas que je pense que la qualité de l'information sera bien meilleure et peut-être que la classe journalistique dans son ensemble aurait plus de moyens de répondre à un certain type de critiques qui parfois sont quand même justifiées, je pense qu'il faut les reconnaître.
Par exemple, sur les critiques qui sont portées à ce qu'on appelle entre guillemets la classe journalistique, c'est l'idée d'une séparation entre une élite que rejoindrait la classe journalistique ou médiatique et un peuple, une population dont on ne saurait rien, dont on ne dirait rien, dont on serait dans l'incapacité de traduire et les préoccupations et la vie quotidienne. Vous diriez, Filippo Ortona, que c'est moins du côté de l'essence de cette classe journalistique qu'il faudrait aller chercher les raisons de cette critique fondée, mais plutôt du côté des moyens donnés au travail journalistique, de la fabrique de cette information, de la fabrique du récit de ce qu'il se passe.
Non, je pense que c'est une question qui a deux réponses. Tout d'abord, ce que je viens de dire, mais aussi également le fait que la France, moi, ce que je me suis aperçu de ça en étant italien, en étant étranger, en venant ici, c'est que la France est un pays fortement élitiste, surtout au niveau de l'accès à l'éducation. Et du coup, l'accès au métier de journaliste, qui s'est fait principalement via les écoles de journalisme, c'est quand même un accès très élitiste, où l'on a peu de diversité. Et c'est là, ça reflète aussi dans la façon dont les journalistes travaillent aujourd'hui. Et c'est si on a effectivement l'impression, selon moi, justifiée, de société qui est un peu égarée des médias, qui n'est...
Alors là, c'est vous qui vous égarez.
On voit trop dans les médias.
Est-ce que on vous entendait plus? Oui, vous disiez, si on a l'impression, et à votre avis, à juste titre, d'une société médiatique qui s'égare, en tout cas qui s'éloigne du reste de la société, et donc ça c'était le bout de phrase qu'on a mal entendu, je vous laisse poursuivre.
Oui, je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que c'est simplement, selon moi aussi, parce que bah, les gens qui composent cette société ne sont pas présents dans les rédactions, ne sont pas présents dans les médias. Et cela provoque des coins d'ombre un peu sur une société dont on ne connaît pas, ou dont on a l'impression que soit elle est caricaturale ou mal représentée, aussi parce qu'il n'y a pas des journalistes qui sont issus de ces parties des sociétés.
Manifestement, ça va un petit peu contre ce que vous disiez, ou à l'encontre de ce que vous disiez tous les deux, Amar Al-Mamoun et Anne-Marie Njazi, en disant on trouve de tout, tout le monde peut être journaliste, et dans les jeunes gens qu'on rencontre, on trouve des gens aussi différents. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous rencontrez cette diversité que vous décriviez tout à l'heure, des gens de toute la société française?
Quand on dit tout, c'est-à-dire il y a l'opportunité pour tout le monde d'être journaliste. Il n'y a pas un pouvoir magique pour être un journaliste. Non, il y a un cursus qu'il faut le faire. En fait, il y a les raisons personnelles pour être un journaliste, mais il y a un chemin qui est clair dans n'importe quel type de journalisme ou de média. Et dans les autres pays, ça n'existait pas.
La démocratisation
de d'éducation, premièrement, et deuxièmement, de d'opportunité qui était pour tout. Oui, il y a toujours cette cas spécifique, mais normalement, j'ai un ami qui a 20 ans, qui a 18 ans, elle a dit ok, alors je vais être un journaliste. Elle a commencé les études dans une école et maintenant elle a commencé d'écrire des petits articles dans un petit journal. Et je trouve ça étonnant parce que par moi, j'étais 22 ans quand j'ai publié mon premier article, et c'était un article sur des chaussures, je pense, ou sur de fashion. C'était pas ce que j'aime, mais c'était ça l'opportunité qui existe.
Donc vous, ce que vous décrivez, c'est surtout une démocratisation du possible parcours.
Exactement.
Sans nier les sélections sociales ou les discriminations qui font que, de fait, tout le monde ne devient pas journaliste et tout le monde ne passe pas par Sciences Po et l'école de journalisme.
Oui,
voilà,
oui.
Force est de constater.
Oui, mais finalement, il y a toujours le produit journalistique. Est-ce que ce texte est bien ou pas? Est-ce qu'on peut le publier ou pas? Et ça, c'est le travail personnel. Pas l'école, pas l'internet. C'est l'effort personnel de quelqu'un.
Sur cette question, Anne-Marie Jazzy.
Si on va parler de, par exemple, est-ce que toutes les classes sociales sont présentées dans les journalistes? Peut-être oui. Peut-être il y en a, mais en fait... C'est vrai que les classes sociales populaires, peut-être, je sais pas encore, enfin je sais pas, je peux pas, on peut pas savoir aussi, mais peut-être oui, peut-être non, c'est très difficile de savoir parce que aussi en fait, un journaliste, il sera journaliste après plusieurs, enfin après travailler pendant longtemps. Enfin, ça prend du temps pour être journaliste qui est bien
reconnu.
C'est pas facile déjà parce que le milieu souffre déjà parce que il y a beaucoup de journalistes, il y a pas assez de chance aussi. On n'est pas payé, enfin on travaille plus qu'on est payé. C'est déjà un milieu qui est très difficile et je crois pas que les gens, peut-être, ils veulent pas souffrir parce que c'est vraiment, si on n'est pas passionné, on peut pas accepter tout ce qui se passe pendant le travail, quoi.
Philippe Ortona, simplement pour, parce que vous avez été coupé, pour poursuivre sur cette question de la diversité et éventuellement d'un manquement de cette diversité qui donnerait lieu à des coins d'ombre ou à des coins de silence dans le traitement journalistique de la France contemporaine. Est-ce que ça s'illustre dans les personnes que vous avez rencontrées depuis que vous êtes arrivé d'Italie pour exercer votre métier?
Oui, bien sûr, dans les rédactions où j'ai pu participer, où j'ai pu travailler, je pense que j'ai remarqué cette absence de certaines classes sociales, de certaines provenances géographiques, urbaines, etc. Mais par contre, c'est là aussi est vrai, souvent j'ai rencontré une qualité professionnelle très très forte, bien plus élevée de celle que j'ai pu connaître dans mon pays d'origine, et cela témoigne certainement d'une qualité aussi déontologique souvent, selon moi, plus haute que dans le reste de certains pays européens. Mais cela, ça n'empêche que, selon moi, il manque encore de la diversité et ça est dû aussi à un système scolaire et social français qui est exceptionnellement élitiste par rapport à d'autres pays européens.
La vie est parfois simple. Nous avons demandé si, pour ce numéro spécial de Libération, on pourrait rencontrer le président de la République. On n'y croyait pas du tout à cette idée. Pourtant, 15 jours plus tard, nous voilà tous les trois devant l'entrée du palais de l'Élysée. Comme dans un film. En fait, il vaudrait mieux dire comme dans un dessin animé. La faute à ce gendarme qui nous ouvre la lourde porte du 55, rue du Faubourg Saint-Honoré. Est-ce la faute à son képi, son uniforme, ses grosses lunettes ou à la forme de son visage? En tout cas, il nous a immédiatement remémoré les dessins animés français que l'on pouvait regarder quand on était enfant en Syrie ou en Iran. Ce gendarme de l'Élysée était comme une pastille enfantine. Une image un peu décalée, amusante et caricaturale que l'on pouvait avoir de la France. Il nous a demandé nos pièces d'identité sur un ton grave. Il ne pouvait pas savoir ce que l'on avait dans nos têtes à ce moment-là. On a rarement été aussi content de donner nos cartes d'identité. La vie est parfois drôle, et là, elle l'était vraiment. C'est le début de votre portrait de François Hollande dans le Libération spécial qu'ils ont appelé le Libération des réfugiés, Anne-Marie Jazzy. Alors évidemment, c'est une porte ouverte de l'Élysée, un accès au président François Hollande qui fait de ce moment et de l'écriture de ce papier un moment, j'imagine, un petit peu particulier pour vous. Est-ce que ça l'est aussi en comparaison avec la situation politique que vous avez quittée? Est-ce que le fait de rentrer dans le palais présidentiel, de vous asseoir autour de cette table que vous décrivez avec les stylos pour chacun, les tours de parole, ce que vous essayez d'aller chercher auprès du président de la République, c'est-à-dire autant ses émotions que ses analyses, est-ce que cela vous paraît autant sorti d'un dessin animé parce que tellement inimaginable du pays d'où vous venez?
Bien sûr, en fait, c'était facile, enfin déjà il n'y avait pas beaucoup de d'agents à la porte, on n'est pas c'était facile de rentrer dans les dans l'Élysée, c'était tout le monde était gentil, on parle pas avec nous d'une manière militaire, c'était pas d'une façon militaire ou c'est presque des ordres, vous allez là-bas, c'est pas des ordres en fait, c'était gentil et c'est inimaginable, et parce que c'est déjà en fait quand on est rentré à l'arrivée de François Hollande à la salle, il était sympa, il était modeste, il avait pas, enfin. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'entouraient pour qu'il soit protégé de nous ou quelque chose comme ça. C'était juste le contraire de ce que j'ai vu et où j'ai vécu en Syrie. Et j'avais la chance une fois d'aller au palais présidentiel à Damas, mais c'était enfin pour un événement culturel que j'ai organisé avec plusieurs personnes en Syrie. Mais c'était juste le contraire, quoi. On était appelés 2 heures avant ou je sais pas quoi. C'était juste le contraire, quoi.
Est-ce que vous pensez qu'il vous faudra, vous avez parlé du temps qu'il vous a fallu pour vous défaire justement de cette ambiance de censure et de danger que vous avez vécu, oui, en Syrie. Est-ce que vous pensez qu'il vous faudra autant de temps, sinon plus, pour défaire justement l'impression de dessin animé et de grande facilité qu'il y a à toquer à la porte de l'Élysée et d'être accueilli pour pouvoir en établir, si ce n'est déjà fait, une critique raisonnée, acerbe et éventuellement sévère?
En fait, j'avais peur de tomber dans cette...
Que ce soit un écueil.
Voilà. Alors, ce que je me suis dit, il faut que je fasse l'expérience déjà pour et avoir un recul, un peu de recul, par exemple. J'ai enregistré le son pour vraiment écouter et réécouter pour ne pas tomber dans « Ah, il nous a accueillis, alors je suis juste ravie, je veux rien faire, je veux pas critiquer, je veux pas parler de ce qui s'est passé. » Et c'est pour ça, en fait, moi, Rouh et Hamzé, on a écouté et réécouté plusieurs fois pour qu'on soit vraiment d'accord de ce qu'on va dire et ne pas avoir une image caricaturale de ce qu'on a vu.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Richeux.
14h53, pardon, sur France Culture. Toute cette semaine, nous décidons de vous faire entendre des archives de personnes étrangères arrivées en France qui se souviennent ou bien de leur passage ou bien de leur arrivée. Et aujourd'hui, l'auteur et traductrice Luba Jorgensen.
Moi, je voulais absolument écrire dans la langue que j'entends tous les jours. Parce que l'écriture est... Enfin, déjà, quand on écrit dans la langue du pays où on vit, on a tout le temps l'impression qu'on doit ressusciter cette langue en soi, qu'elle meurt sans arrêt. Quand on se met à écrire, il y a une sorte de mort qui se produit. Et donc il faut déjà tellement de force pour faire vivre cette langue qui est là, alors comment pourrais-je y arriver si en plus la langue n'est pas là ? J'ai appris le français en étant enfant. En fait, j'ai commencé à l'apprendre vers l'âge de 8 ans. Mais à l'école, tout bêtement, c'était pas... je ne l'apprenais pas dans ma famille. Et j'ai continué jusqu'au moment où nous avons quitté la Russie. C'est-à-dire, j'avais 17 ans exactement quand nous sommes partis. Donc, je peux dire que je connaissais le français, je pouvais le parler, encore que c'était un français tout à fait différent de celui qu'on parlait à Paris, et que beaucoup de choses m'échappaient dans ce que j'entendais dans la rue, notamment. Donc il a fallu un deuxième apprentissage une fois arrivé.
Mais vos parents eux-mêmes ne parlaient pas le français ?
Non.
Donc le français est resté quand même une discipline de l'extérieur, une pratique de l'extérieur.
Tout à fait, c'est même devenu assez vite une cause de dédoublement, c'est-à-dire en français, je pouvais lire et écrire des choses que ma famille ne comprenait pas. Donc c'est une donnée qui compte beaucoup pour moi dans l'écriture, le fait que, peut-être encore maintenant, je sais que ma famille ne lira pas ce que j'écris.
C'était votre domaine privé.
C'était, oui, c'était une possibilité de m'échapper. De me cacher.
Alors, quel a été votre choc quand vous arrivez à Paris à 17 ans et que le français, qui était jusque-là une langue de votre retrait familial, et qui devient la langue, au contraire, justement, ambiante ?
La réaction immédiate est assez banale et évidente, c'est-à-dire c'est au contraire de se retrancher dans le russe. La première réaction était de récapituler ce que j'avais acquis dans la langue russe et de comprendre que ma culture était là. C'est-à-dire, en fait, l'arrivée en France a accentué le dédoublement, d'une certaine manière. Parce que quand on vit en pensant qu'on va quitter le pays où on vit, et surtout quand on est jeune, c'est-à-dire que, sans le savoir, on est en train d'élaborer tout ce qui fera le fond de notre existence ultérieure, on a des fantasmes. On imagine qu'on va pouvoir couper avec ce qu'on est, hein, qu'on va pouvoir complètement se couler dans une autre culture, qu'on va oublier la langue. Non, je n'ai jamais pensé que j'allais oublier le russe, mais disons que toute notre vie va se passer dans cette langue qui va nous accueillir.
Obligée d'expirer les chagrins qui me hantent. Où sont-ils donc passés tous les rires du matin? Ils n'étaient pas avant moi, on me les a volés. Et si tu me disais que tu mentais, je te déchirais la langue, pas de chair, non étrangère à la déception. ma chère.
Chère trahison par Mélissa Lavo pour terminer cette émission. On a beaucoup parlé de Paris et l'Île-de-France aujourd'hui, mais justement dans plusieurs lieux à Paris et en banlieue, plus de 10 lieux commencent du 11 au 26 mars le festival Sonic Protest. Comme toujours, le programme est foisonnant, réjouissant. Il faut faire ses choix en se rendant sur le site sonicprotest.com. Mais signalons simplement, puisqu'ils étaient de passage aux Nouvelles Vagues la saison dernière et que nous avons un fort attachement à leur travail, que mercredi 15 mars, vous pourrez entendre les jeunes gens autistes de l'hôpital d'Antony faire leur émission Radio Tisto en public. C'est à 14h au centre Barbara Fleury dans le 18e. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Amar Al-Mamoun, Anne-Marie Jazzy et depuis le Maroc au téléphone, Filippo Ortona. Demain, même heure, même chaîne.